Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition réalisée en partenariat avec IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée-Moyen-Orient organisait cette semaine à l'Assemblée Nationale à Paris un colloque sur le terrorisme, l'occasion de faire un point sur Daesh, ce qu'il est aujourd'hui après l'apogée de 2014, sa montée en puissance est-elle épuisée, la perte de terrain signifie-t-elle perte des esprits, la menace s'affaiblit-elle alors que la question du retour des djihadistes français se présente comme un défi. Nos invités, François Burga, politologue et directeur de recherche au CNRS. Ce dernier ouvrage paru « Comprendre l'islam politique, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste 1973-2016 » aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu Rey, chargé de recherche au CNRS et chercheur associé au Collège de France. Bonjour.
Bonjour.
Et David Thompson, journaliste à RFI. Dernier ouvrage paru « Les revenants, ils étaient partis faire le djihad, ils sont de retour en France » paru en décembre dernier aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Dans quelle mesure peut-on affirmer que Daesh et ses combattants perdent du terrain? Est-ce qu'il s'agit d'un affaiblissement, d'un repositionnement, d'une dispersion? David Thompson.
Militairement, sur le terrain, on peut que constater la perte de nombreuses villes par l'État islamique. L'État islamique était dans une situation d'élan de victoire de 2013 à 2015, qui était d'ailleurs l'un de ses éléments marketing très forts pour s'adresser à ses partisans dans ses vidéos de propagande et expliquer que cet élan de victoire était le signe qu'il était porté par la Providence, qu'il était sur la voie prophétique, pour reprendre leur terminologie. Et d'ailleurs, c'était le slogan de l'État islamique, le fameux Bakia Watatamadad, c'est-à-dire demeurer et s'étendre. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. La coalition a utilisé la bataille de Kobané à partir du début 2015 pour casser cet élan de victoire en concentrant la majeure partie de ses frappes sur cette ville qui était devenue un symbole stratégique majeur. Et à partir de là, même s'il y a eu d'autres victoires ensuite après, effectivement, l'élan de victoire a été cassé. Et depuis, le I recule sur la totalité de ses fronts, à la fois sur sa base syro-irakienne historique, mais aussi sur ses franchises à l'étranger. Le seul endroit où il y avait un contrôle territorial en dehors de la Syrie et de l'Irak ces derniers mois, c'était la Libye, avec la ville, l'ancien bastion kadhafiste de Sirte, au prix d'une longue bataille de 7 mois, se réduit à disparu aujourd'hui. Et c'était la base de projection de l'EI pour sa stratégie sahélienne. Donc, en fait, on assiste surtout à un retour de l'EI à la clandestinité, qui était sa situation d'avant 2014, finalement. L'EI ne va pas disparaître. Mmh. La dernière phrase de mon livre, je reprends une phrase d'une vidéo de propagande de l'EI au moment où ils ont perdu la ville de Minbij, en Syrie. Il disait... Nous avons perdu une bataille, mais nous avons créé une génération qui connaît désormais son ennemi. Et je pense que voilà, c'est une façon de dire que l'EI change de forme, mute, mais ne disparaît pas, de même que la menace qu'il représente.
François Burga.
Dans le prolongement de ce que vient de dire David Thompson, recul militaire au pluriel, avec une tout petit bémol, le Yémen ne connaît pas exactement la même tendance sur le plan militaire, mais recul militaire généralisé est ce qui est le plus important. Néanmoins, pas d'alternative politique crédible qui permette de penser que cette génération qui a effectivement identifié un ennemi et fabriqué le logiciel qui permet de l'affronter ne va pas disparaître. Nous sommes pas, il n'y a ni en Syrie, ni en Irak, une porte de sortie de la crise, c'est-à-dire une reconstruction du tissu politique. Il y a malheureusement une victoire de la force brutale, relativement illégitime, puisque j'emploie parfois une formule qui est un tout petit peu excessive, mais ce qui est en train de se produire sur le territoire syro-irakien, ce sont des milices et pas des forces politiques fabriquées par la représentation, par les institutions, des milices sectaires, kurdes ou chiites, qui sont en train de prendre livraison des ruines fabriquées par une coalition internationale qui n'est pas très légitime à faire ce qu'elle fait. Donc, reconfiguration de la crise, le recul militaire ne signifiant malheureusement, absolument pas qu'on a véritablement tourné une page essentielle de cette histoire noire de notre époque.
Alors, finalement, Mathieu Rey, Daesh, l'État islamique, plus dangereux dans la clandestinité ou sous les feux de la rampe?
J'apporterai deux bémols par rapport à ce qu'on vient d'entendre quant au recul. À savoir que d'abord, je pense qu'il faut employer le pluriel systématiquement pour parler des États islamiques, parce qu'on n'a pas affaire à une entité unique, homogène, qui aurait un commandement et une stratégie d'ensemble. On voit par exemple qu'ils avancent encore à des résorts. pourtant personne ne regarde cette ville qui est pourtant stratégique et essentielle. Elle permet de contrôler une partie des pétroles syriens et d'autre part s'inscrit comme une sorte de Stalingrad jusque-là de l'État islamique. Et l'autre bémol concerne la Turquie où on voit la multiplication des actions clandestines pour le coup de l'État islamique sur la frange frontalière entre la Syrie et la Turquie, que ce soit à Gaziantep, que ce soit à Urfa, où on a une multiplication d'assassinats ciblés, une multiplication d'attentats, ce qui montre une capacité de nuisance qui demeure et qui se maintient. On peut peut-être le comprendre par le fait que pour le moment, l'unique, et là je m'inscris pleinement dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, l'unique réponse que l'on a apportée et qu'apportent les acteurs locaux, principalement syriens mais aussi irakiens, c'est de vider des endroits de telle manière à les récupérer. Ceci apporte une réponse sécuritaire certaine, mais un espace vide n'est pas un espace politique.
Alors, ce que j'entends de ce qui vient d'être dit par chacun, davantage qu'un affaiblissement, c'est un repositionnement, une sorte de dispersion qui se produit actuellement, David Thompson.
D'ailleurs, c'est très intéressant, je pense, d'évoquer la ville de Deir ez-Zor, parce que effectivement, c'est une image qui est parfaite, c'est vraiment le Stalingrad, c'est une bataille qui a commencé dès le début et que entre aujourd'hui, on a deux poches du régime syrien qui sont encerclés par l'État islamique. Enfin, l'État islamique avait initialement chassé les rebelles pour contrôler les puits de pétrole de cette région, ex-Jabhat al-Nusra. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait devenir la capitale de substitution de l'État islamique. Si jamais ils perdaient toutes leurs villes, notamment en Syrie, Raqqa et Al-Bab aujourd'hui, c'est les derniers fiefs, parce que finalement, on a l'impression qu'aucune des forces en présence ne serait susceptible d'avoir envie d'aller combattre là-bas vraiment à Deir ez-Zor. Et personnellement, je ne pense pas que le régime est vraiment intéressé à ce que l'État islamique disparaisse véritablement, parce qu'il y a, ça c'est mon avis, une forme d'alliance objective entre l'État islamique et le régime. On le voit avec des échanges de pétrole qui se poursuivent, on le voit avec, je le disais aussi dans le livre, des médecins qui viennent de Damas en zone État islamique pour soigner des soldats de l'État islamique contre financement. C'est-à-dire que si c'était le cas, l'État islamique pourrait conserver, même en situation de péril militaire majeur, une poche comme ça, qui pourrait lui permettre d'exister. Mais de toute façon, il continuera d'exister sous sa forme clandestine. Et la menace aujourd'hui terroriste qu'il représente, elle reste très forte, même si, étant donné qu'ils ont perdu le contrôle de la frontière turque depuis l'été dernier, il est beaucoup plus difficile pour aujourd'hui d'exporter, comme ils l'ont fait en 2015, de projeter des combattants qui avaient été formés chez eux sur notre sol pour faire des attentats. Mmh. Et ça reste possible, mais c'est beaucoup plus difficile.
Alors, deux choses par rapport à ce que vient de dire David Thompson, qui parle donc de réduction à une poche. Est-ce que ça veut dire, François Burga, que finalement le projet territorial de l'EI est d'une certaine manière remis en cause ? Et quelles conséquences sur la menace terroriste ?
Oui, pour l'instant, il est toujours difficile d'anticiper parce que l'EI nous a fait de nombreuses surprises dans l'histoire récente. Peu d'analystes ont véritablement anticipé la rapidité avec laquelle il allait prendre pied, par exemple, dans Mossoul. Mais oui, il y a quand même une tendance générale qui voudrait que la page de la territorialisation soit contredite par les faits. Mais je pense que nous avons nous convergeons sur cette idée que si ce n'est pas une victoire politique, mais seulement une victoire de la force. La capacité réactive des vaincus qui sont en minorité, mis en minorité à l'échelle du monde, mais qui restent la majorité dans les tissus politiques locaux. Hein. Et, par exemple, les sunnites à Mossoul ou dans des pans entiers de la Syrie vont reconfigurer leur mode d'action. Et donc, effectivement, cette phase que nous sommes en train de vivre, c'est une espèce d'entonnoir qui fait rentrer le potentiel de violence sous le tissu politique et qui le diffuse. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement difficile de se réjouir de la tournure actuelle des événements.
Mathieu Rey ?
J'aurais juste précisé sur cette territorialisation du projet de l'État islamique, si, comme David Thompson l'a très bien souligné au début, il s'inscrit effectivement pleinement dans la propagande au début de l'État islamique, l'État islamique n'a jamais figé son territoire ou n'a jamais précisé les contours. Et si l'on envisage son projet ou sa manière de fonctionner, on n'est pas en présence d'un cadre étatique, c'est-à-dire que conquérir une frontière serait décisif à l'image de ce qui se passerait dans une guerre mondiale ou autre. Au contraire, on a plutôt affaire à des phénomènes d'accordéon et la perte de territoire peut signifier une reconfiguration ou une réorientation des choses. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les territoires perdus, ce sont avant tout des territoires urbains, Mmh. On ne parle pas des territoires ruraux environnants, parce que leur contrôle est beaucoup plus difficile et compliqué, et que d'autre part, l'architecture globale des pouvoirs de la région, qui fonctionne par des réseaux de checkpoints, n'est pas fondamentalement remise en cause, de même que le réseau de checkpoints de l'État islamique n'est pas fondamentalement remise en cause encore aujourd'hui. Et je reprendrai toujours le même exemple, tant que les acteurs locaux accepteront de payer les taxes à l'État islamique, cela signifiera quelque part que le projet politique n'est pas remis en cause définitivement.
Vous écoutez Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, perte de terrain ne signifie pas perte des esprits. Qu'est-ce que l'on sait des priorités pour Daesh aujourd'hui, David Thompson?
Les priorités, il faut les dissocier. Je pense que déjà, on peut parler des priorités terroristes contre les pays, notamment occidentaux, et la France. Depuis le printemps dernier, je pense qu'en fait, l'État islamique a anticipé ce retour à la clandestinité, puisqu'on a vu dans le dernier discours de l'ancien porte-parole du groupe Adnani, qui a été ciblé par un drone américain il y a quelques mois, en mai dernier, qu'il anticipait justement ce retour à la clandestinité, qu'il anticipait le perte de contrôle des villes. Il le disait textuellement dans son discours. Et du coup, la stratégie terroriste du groupe s'est inversée, c'est-à-dire que jusque-là, ils appelaient des partisans à les rejoindre sur leur territoire, rejoignez-nous pour construire le califat, pour etc. Et là, à l'inverse, c'était restez chez vous, frappez chez vous, nous n'avons plus besoin de vous ici.
C'est là où nous en sommes actuellement.
C'est ça. Et je pense que ça correspondait à ce qui s'est passé juste après. Enfin, je pense que ça anticipait ce qui s'est passé militairement juste après avec l'opération bouclier de l'Euphrate des Turcs qui ont repris le contrôle de leurs frontières. Et ça avait véritablement tout changé. Cette reprise de leurs frontières par l'armée turque. Tout changé parce que, déjà l'État islamique a perdu le dernier poste frontière qu'il avait avec la Turquie, la ville de Jarablus. Et puis, surtout, ça empêche de nouvelles recrues de venir. C'est-à-dire que pour les combattants français, il y a eu un tassement immédiat des départs, mais très net, des départs de djihadistes français vers la Syrie à partir de ce moment-là. Et ce tassement est toujours d'actualité au moment où on parle. Même chose pour, à l'inverse, pour ceux qui seraient tentés de revenir, on en parlera tout à l'heure. Beaucoup plus difficile, évidemment, puisqu'ils doivent traverser des lignes ennemies, et c'est plus du tout la même situation. Donc, en fait, pour revenir au sujet dont on parle, sur leur stratégie terroriste, aujourd'hui, vous avez des gens en Syrie, des Français, des combattants de l'État islamique, qui passent leur journée à essayer d'activer des sympathisants sur le sol français, à travers les réseaux sociaux et notamment la messagerie cryptée Telegram, en leur donnant des instructions, des tutoriels pour frapper, faire des attentats. C'est leur activité principale.
Ce qui veut dire, François Burga, que finalement, l'absence d'activité sur place fait que davantage de directives sont données, et ce qui accroît d'une certaine manière la dangerosité et la menace.
Il faut être très très prudent pour en parler, je ne suis pas nécessairement le plus qualifié, mais effectivement ce qu'on sait de la logique de fonctionnement de l'acteur Daesh, que vient de décrire David Thompson, fait que nous sommes plutôt dans une phase ascendante de la menace sur nos territoires respectifs.
Alors justement, Mathieu Rey, David Thompson parle de la France comme du pays occidental le plus menacé, le plus ciblé, le plus touché. Est-ce qu'on a des explications par rapport à cette situation, Mathieu Rey ?
N'étant pas du tout spécialiste de la France, je ne pourrais pas répondre. En revanche, je m'inscrirai plus dans les commentaires précédents en remarquant les grandes respirations qui ont donné naissance à l'État islamique. En 2005, il n'existe pas, Al-Qaïda prend place en Irak, on enferme un certain nombre de personnels irakiens dans les geôles américaines, ils en ressortent, une partie d'entre eux rejoint immédiatement ou refonde ce qui va donner naissance à l'État islamique, donc sur une temporalité de 5 ans. Ce noyau prend forme, s'étend et émerge aux horizons de 2012-2013 sur tous les médias occidentaux, et 2014, soudainement, il devient un phénomène spectaculaire. On l'a traité par le côté sécuritaire, c'est-à-dire par l'assassinat au maximum de ses membres et par l'enfermement des autres. La question pour l'avenir localement sera de savoir qu'est-ce que l'on va faire et comment on va pouvoir traiter ce à quoi on n'a pas apporté de réponse, je pense, ces personnes qui trouvent place en prison. Alors c'est le vrai en Syrie, c'est vrai en Irak, mais cela va être le cas aussi largement en France, dans la mesure où, pour le moment, à la différence d'un mafieux, nous n'avons pas de repenti possible et nous n'avons pas encore de processus qui nous permette de savoir dans quelle mesure on peut considérer qu'une personne personne est sortie d'un cycle ou est sortie d'un projet politique dans lequel il y avait une remise en cause totale de l'univers politique existant parce que cet univers politique ne lui laissait pas de place.
Alors, on va parler de la France, David Thompson. Donc, je le disais, ou c'est vous qui l'affirmez dans votre ouvrage, la France qui est le pays occidental le plus menacé, le plus ciblé, le plus touché. Les chiffres, peut-être, pour préciser les choses. Combien de djihadistes français toujours présents dans la région syro-irakienne et combien dans nos prisons et...
Bon, selon les chiffres officiels donc, français donc, du ministère de l'Intérieur, on est autour de 700 Français résidents français actuellement sur zone en Syrie et en Irak. Chiffre auquel il convient d'ajouter leurs enfants, entre 380 et 450 enfants selon les estimations français donc sont là-bas, dont un tiers au moins serait né sur place. Donc ça c'est selon le renseignement, les chiffres diffusés par les renseignements français. 230 environ ont été tués et un peu plus de 200 sont rentrés en France. Mmh. Donc ce sont ceux que j'ai appelés les revenants. Voilà pour les chiffres.
Alors, les revenants, qu'est-ce que l'on peut dire de leur motivation de retour? Vous évoquiez la stratégie de l'État islamique aujourd'hui qui est de dire ne venez plus et poussant certains à repartir avec les difficultés qui ont été évoquées. Qu'est-ce que vous avez appris, David Thompson, sur leur motivation de ceux qui reviennent?
Alors, peut-être je répondrai à votre question précédente également sur les raisons qui font de la France le pays qui est le plus menacé, au moins en Europe, sinon en Occident. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi les États-Unis qui restent une cible de choix pour l'ensemble des djihadistes, quelle que soit leur coloration, Al-Qaïda ou État islamique. Donc j'ai posé la question à des djihadistes français, qu'est-ce qui faisait que la France était le pays le plus ciblé à la fois dans la propagande et dans les attaques. Il y a une série évidemment de raisons, et là je rejoins tout à fait ce que dit François Burga quand il emploie le concept de contre-violence, de réaction, etc. Il y a déjà ce qui s'est passé dans l'histoire française, qui revient constamment dans les entretiens. La colonisation et la décolonisation, qui n'est pas la même en France que dans d'autres pays européens, notamment l'Angleterre ou autre. Et j'ai eu cette phrase d'un djihadiste français qui m'avait dit « La France, je le cite, est ennemie de l'islam ». Actuellement, dans sa législation, laïcité, universalisme républicain, mais c'était pas tout à fait la façon dont il le disait, mais c'est ce que ça voulait dire. Et elle est ennemie de l'islam dans son histoire, en raison de la colonisation et de la décolonisation. Il disait, nous sommes français, certes, mais nous sommes aussi marocains, tunisiens, algériens, et nous n'oublions pas. Comme si, en fait, ce traumatisme, il avait sauté une génération. Je l'avais peut-être minimisé, mais ça ressort très fortement dans les entretiens, qu'il est peut-être plus fort pour eux, qui ne l'ont jamais connu, ces jeunes de 20 ans, que pour leurs parents. Donc ça revient constamment. Vous avez ensuite des raisons qui sont aussi les opérations extérieures de la France, qui reviennent constamment dans le débat, et qui sont là encore pas tout à fait les mêmes que ceux d'autres pays. Et puis, vous avez aussi des raisons là qui sont plus individuelles. Le fait que... il se dit au sein de l'État islamique que les Britanniques, par exemple, les djihadistes britanniques de l'État islamique, détestent moins leur pays d'origine que les Français ne détestent le leur. Ça, je le tiens d'un Français qui était parti avec les réseaux anglais et qui avait combattu au sein de l'État islamique dans des brigades à majorité britannique. Et je lui disais, mais pourquoi? Et il m'expliquait que en Angleterre, la détestation était moins grande parce que le modèle n'était pas le même. Le modèle multiculturel, etc. Les possibilités d'ascension des minorités, qui constituent quand même le gros des troupes de volontaires étrangers au sein de l'EI, n'étaient pas les mêmes, etc. Donc, si vous voulez, il y a un faisceau de raisons qui font que là, et évidemment, la France est aussi le symbole médiatiquement. Frapper la France, ça n'aura pas tout à fait le même impact que frapper un autre pays européen.
Alors il y a, on développera peut-être davantage dans la deuxième partie de l'émission, mais juste pour terminer cette première partie, finalement les raisons exogènes et les raisons endogènes. François Burga.
Oui, alors je m'inscris tout à fait dans ce qui a été dit. On pourrait rajouter pour illustrer la différence entre le modèle français et le modèle anglo-saxon sur le terrain du multiculturalisme. Lorsque les Britanniques se sont trouvés en face d'un monsieur qui avait un turban, une barbe, et ils se sont posé la question, est-ce qu'il peut devenir un policier? Eux, ils ont répondu oui. Évidemment, face au hijab, ils n'ont pas cette tension, parce que la tradition déjà considère comme plus légitime la présence du religieux dans l'espace public, mais que sur le terrain culturel, ils n'ont pas eu ce blocage qui fait que jamais dans l'histoire contemporaine, le politiquement correct français qui va de Monsieur Valls à Monsieur Mélenchon en passant par Monsieur Fillon n'a été plus éloigné de la perception médiane des musulmans dans le monde. Et donc, cette laïcité stigmatisante, agressive, qui exclut, qui stigmatise, c'est quand même un produit extrêmement français.
On poursuivra dans la deuxième partie géopolitique. Nous retrouvons nos invités François Burga, Mathieu Rey et David Thompson dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le terrorisme en débat pour cette édition réalisée en partenariat avec l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient qui organisait cette semaine à l'Assemblée nationale à Paris un colloque sur le terrorisme. Nous retrouvons nos invités François Burguin, politologue et directeur de recherche au CNRS. Dernier ouvrage paru, Comprendre l'islam politique, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste 1973-2016 aux éditions La Découverte. Mathieu Rey, chargé de recherche au CNRS et chercheur associé au Collège de France. Et David Thompson, journaliste à RFI, dernier ouvrage paru. Les revenants, ils étaient partis faire le djihad, ils sont de retour en France, paru en décembre dernier. Aux éditions du Seuil, on l'évoquait dans la première partie de l'émission, cette évaluation à peu près à 700, le nombre de Français encore sur place dans la région syro-irakienne, dont la moitié de femmes, on en parlera. Est-ce qu'il va y avoir un retour important de combattants français avec cet affaiblissement, ou en tout cas cette réorientation peut-être de l'État islamique sur le territoire. Pourquoi rentre-t-il ? On a terminé la première partie de l'émission en faisant ce distinguo entre la situation en Grande-Bretagne et la situation en France. Finalement, qu'est-ce que reflète de la société française ces départs importants de Français dans la région ? Qui veut répondre, Mathieu Rey ?
Je voudrais juste ajouter deux éléments par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure quant au motif de départ et quant au motif qui explique pourquoi la France aujourd'hui est largement touchée par des attentats. Alors, n'étant pas spécialiste de la France, je suis extrêmement prudent dans mes remarques. Mais tout de même, et comme le souligne très bien David Thompson dans son livre, jusqu'en 2016, les femmes ne sont pas terroristes pour nos services. Ce qui montre une chose qui est quand même essentielle, c'est que, et ce qui explique d'ailleurs son recul actuel, et là je tiens ces informations, où je suis plutôt les observations de Samuel Forêt qui est sur le terrain en ce moment, c'est que pendant 3 ans, on a observé une organisation qu'on ne connaissait pas et qu'on ne comprenait pas, et je ne suis pas encore sûr qu'aujourd'hui, on ait véritablement compris la dynamique sous-jacente à cette organisation. Dynamique d'abord positive, c'est-à-dire que tout univers, même dans l'ultra-violence, porte toujours un imaginaire positif. Il suffit de lire La promesse de l'Est de Christian Ingrao sur les nazis pour comprendre que la destruction d'une partie de l'Europe s'est faite aussi parce qu'il y avait un nouveau monde pour eux en germe. Et ça, l'État islamique le vend encore aujourd'hui. Donc j'attirerai l'attention sur la méconnaissance ou la désorganisation aussi des forces qui jusque-là nous ont préservé peut-être des attentats, à savoir nos services de renseignement, nos services de police. L'autre point concerne les générations françaises. Si je prends les personnes qui sont parties en Syrie, c'est-à-dire des personnes qui finalement, si je suis les statistiques, ont entre 35 ans et 25 ans. Pour moi, je le prends en date simple, 25 ans à peu près, ou quelqu'un qui aura 10 ans il y a 25 ans, c'est 1991. Et 1991, cela signifie 3 choses. C'est la guerre du Golfe d'une part, c'est l'annonce d'un processus de paix, et donc c'est une génération Oslo en territoire français, c'est-à-dire une génération qui a vécu et a été véhiculée dans l'espoir d'une solution au Proche-Orient qui s'est écrasée dans la question israélo-palestinienne, dans les tourments de la seconde intifada que cette génération a pu suivre, et c'est le troisième point, en direct par des nouveaux médias. C'est la première génération Al Jazeera, c'est-à-dire une génération en territoire français, susceptible de s'informer par d'autres médiums que simplement les médias classiques que l'on avait jusque-là. Par une transmission générationnelle de leurs parents maîtrisant la langue arabe, ils ont pu suivre en direct, que ce soit l'épopée des talibans à partir de 96, ils ont pu suivre l'intifada et enfin la guerre d'Irak de 2003, voyant que la réalité et l'imaginaire vendu par l'Occident n'étaient peut-être pas le seul existant.
Et finalement, comment tout cela a résonné dans les esprits, David Thompson, prolongement de ce que vient de dire Mathieu Rey ?
En fait, c'est intéressant, justement, effectivement, de voir comment l'EI, tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, a réussi à projeter cette utopie, effectivement, positive pour ses sympathisants. Il y a un des revenants dans le livre qui employait même l'expression de trans-collective. En fait, il disait c'était le pays imaginaire qu'on devait visiter. Et l'État islamique a réussi à leur faire croire que la France était forcément un État injuste, notamment envers les minorités. Aujourd'hui, dans son histoire, elle l'a toujours été. Et qu'à l'inverse, l'État islamique avait un projet pour eux protecteur, qui leur serait bénéfique. Et là, on aborde aussi la dimension individualiste et hédoniste du projet djihadiste pour certains individus, puisque c'est la promesse d'une inversion d'arabe. rapports de domination sociaux, de passer d'une situation de dominé en France à dominant en Syrie, juste au prix d'un vol charter pour la Turquie et d'une allégeance au groupe. Donc, au-delà des motivations proprement religieuses qui sont essentielles et politiques, il y avait aussi cette dimension-là. Donc c'est ça, c'est, effectivement, ils ont fait résonner cette utopie dans l'esprit d'un certain nombre de jeunes Français.
Donc l'État islamique a fait rêver, fait peut-être encore rêver, les revenants, pour en revenir à leur motivation, des déçus de l'État islamique, le rêve... a fait long feu, David Thompson?
De façon tendancielle, même si c'est pas la totalité, je dirais que la majorité de ceux que j'ai pu interviewer étaient dans une situation de déception, mais qu'ils étaient toujours ancrés dans une forme de radicalité religieuse, sinon violente. Et parfois, ceux qui sont dans la radicalité violente, ils continuent de l'assumer. Il y a une jeune fille qui rentre, qui est dans un terrorisme revendiqué, assumé, avec des propos extrêmement durs, me disant que l'attentat de Charlie Hebdo, par exemple, était le plus beau jour de sa vie. C'est quelqu'un qui est revenu déçu de l'État islamique, notamment parce que c'était une femme, elle a subi le sort des veuves au sein de l'EI, qui est très difficile, parce qu'elle se retrouve parquée dans des maisons pour femmes, dans lesquelles les combattants viennent piocher des femmes à la faveur de véritables spirituels dating quotidien. Elle était incarcérée, elle a subi toute une série de vexations, de sévices, de violences physiques, psychologiques. Donc elle revient déçue, mais toujours vraiment profondément ancrée dans l'idéologie djihadiste. Et elle est en liberté. Donc là, c'était effectivement le biais de genre un petit peu que j'ai dénoncé dans le livre, puisqu'on les prenait pour des victimes, mais elles sont tout aussi déterminées et fanatisées que les hommes. Ça fait aussi, je pense, écho à la représentation de la femme musulmane en France, qui est forcément dans un rapport de soumission à la domination masculine, victimaire, etc. Non, elles n'ont pas perdu leur libre arbitre. Toujours est-il que cette femme, qui est toujours très fanatisée, est repartie en Syrie, mais chez Al-Qaïda cette fois-ci. Donc, des repentis, ils existent, il y en a qui s'expriment dans le livre, mais à ce stade, mais peut-être que ce ne sera pas le cas dans 5 ans, ils sont minoritaires.
Un commentaire, François Burga?
Pour rebondir sur la raison profonde qui explique, sans l'excuser, la fragilité de la réponse de nos élites à ce phénomène qui nous réunit aujourd'hui dans ce studio. Nous savons tout sur le comment. On veut bien s'interroger sur le comment. Mais cette abondance, cette minutie qui nous fait aligner les informations sur les méthodes, les réseaux, les financements, masque une incapacité absolue à nous interroger sur le pourquoi. Et si on s'interroge pas efficacement sur le pourquoi, on ne peut pas identifier les sphères sur lesquelles nous avons prise. Et en peu de mots, qu'est-ce qui se passe ? Si nous n'acceptons pas l'idée que la violence chez ces jeunes est le produit de l'échec d'une interaction entre ces jeunes et nous, c'est-à-dire si on n'accepte pas de porter ne serait-ce qu'une toute petite part du chapeau, nous allons forcément faire un usage de la variable idéologique complètement disproportionné avec la réalité. On va dire ces jeunes sont comme ça à cause de leur salafisme, et seulement à cause de leur salafisme, ils ont entendu un imam radical, et bien sûr, on ne va avoir de capacité de réponse que sur ce terrain-là. On va demander à l'autre de se réformer, on va vouloir faire interdire le salafisme, ce qui est une des plus grandes imbécilités qu'on puisse prononcer, parce que le vrai défi, c'est, acceptons-nous de considérer la part de responsabilité que nous avons dans ce dysfonctionnement des mécanismes qui font que des jeunes vont utiliser la variable sectaire, binaire, conflictuelle de leur appartenance religieuse, eh bien nous n'avançons pas. Et actuellement, malheureusement, si vous faites le tour dans cette atmosphère électoraliste des prestations de nos élites politiques, on voit personne qui nous fait avancer.
Mathurin.
J'ajouterais juste deux choses qui s'inscrivent pleinement dans la prolongation de ce que vient de dire François Burga. Le premier, c'est un rapport que l'on entretient entre le nord et le sud de la Méditerranée, faisant que le sud de la Méditerranée a été conçu exclusivement jusque-là sous le prisme de la frontière de l'Europe, c'est-à-dire une sorte de mur. Alors, nous n'étions pas à l'époque de Trump, mais nous l'avons construit d'une autre manière, à savoir une barricade de dictateurs qui nous protégeait et des migrants et des terroristes, même s'ils les fabriquaient. Aujourd'hui, ce rapport a été fondamentalement remis en cause par les peuples de la Méditerranée qui ont détruit ces régimes de l'intérieur, qui les ont remis en cause, quitte à, dans le cas de la Syrie, mourir massivement. Ce que l'on voit en Syrie, c'est que cela a été une aubaine comme jamais il n'y aurait pu y avoir pour l'État islamique, à savoir la rencontre d'un projet politique, celui de l'anti-impérialisme qu'il avait développé en Irak, le combat contre l'Américain ou autre, avec une autre chose, celui du soutien à un peuple en difficulté, le peuple syrien. Et ils ont pu véhiculer sur tous les médias sociaux l'image de « nous sommes du côté du faible contre le fort », ce qui dans la région fait directement écho à d'autres phénomènes. Et dans les imaginaires occidentaux, de minorités notamment, fait écho directement à d'autres questions. La force de l'État islamique, c'est de savoir exploiter de façon très efficace toutes nos contradictions. Nos contradictions de système capitaliste pour vendre des antiquités, nos contradictions de système d'enseignement en instrumentalisant certaines questions locales, mais comme on se refuse à les traiter chez nous, on n'y arrive pas à bloquer les processus, et de contradictions surtout régionales, qui fait que, tout en étant partenaire d'un régime comme Bachar el-Assad, il peut se présenter comme une alternative à. C'est celui qui a fait la révolution dans la révolution syrienne, c'est celui qui a voulu construire un ordre nouveau immédiat, quitte à détruire l'intégralité du tissu révolutionnaire syrien pour ce faire. Et c'est ça sa grande force. Il est apparu comme celui qui était la nouvelle génération révolutionnaire, alors même qu'il détruisait les espoirs de ces populations. Tant qu'on ne réglera pas la question syrienne au sens complexe du terme, c'est-à-dire apporter une solution politique et un nouveau dialogue avec ces populations, alors on ne réglera pas la question de l'État islamique.
Alors, la force de l'État islamique, je reprends ce que vient de dire Mathieu Rey, de savoir exploiter nos contradictions. On l'a entendu durant ce colloque sur le terrorisme, cette idée que les régimes autoritaires dans le monde arabe sont dénoncés aussi comme des incubateurs du terrorisme. Est-ce que un travail conjoint vous semble possible? Est-ce qu'il y a la possibilité de créer cet espace? Et finalement, à quelle échéance, François Burga?
Ce travail conjoint, il existe depuis très 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 longtemps, mais pour le pire, pas pour le meilleur. La coopération internationale, la génération du radicalisme absolu est le produit d'une coopération internationale dont nous sommes des acteurs privilégiés de très longue date. Il y a à peu près 20 ans, je pense, que j'ai employé pour la première fois l'expression « Pinochet arabe ». C'est-à-dire que nous avons cautionné des régimes autoritaires, nous avons bafoué, allez, une autre image, j'ai vécu un traumatisme en 1990 à une époque où le président Moubarak, je disais, remplissait les prisons d'une main et les urnes de l'autre, en voyant arriver Alain Poher, président du Sénat français, décorer monsieur Moubarak du prix Louise Michel de la démocratie et des droits de l'homme. Ce pauvre prix Louise Michel, nous l'avons donné à monsieur Ben Ali dès 1987, vous voyez l'anticipation heureuse. Et nous l'avons donné en 2004 au président algérien Abdelaziz Bouteflika. Tout est dit. Nous encourageons les dysfonctionnements des mécanismes de la représentation politique dans le tissu politique de nos partenaires. Et donc, Daesh, c'est la globalisation du ressentiment. Ce sont les mal-aimés, les stigmatisés, les marginalisés de nos enceintes politiques occidentales qui entrent en résonance avec les marginalisés, stigmatisés des échecs de la représentation politique dans le théâtre oriental. Eh bien, jusqu'à présent, nous avons effectivement coopérer, mais très exactement en sens inverse de ce qu'il fallait faire. Vous me direz, ça s'est peut-être amélioré. Oui, par exemple, en 2013, lorsque nous avons anticipé, accompagné et applaudi, je ne sais pas si un jour on ouvrira les archives du ministère pour voir quelle a été la réaction du tissu politique français à l'éviction de Monsieur Morsi. Hein, nous avons accompagné ce phénomène, nous lui vendons des armes, nous banalisons notre relation avec lui. La plupart de nos élus du moment, là, ceux qui sont dans le vent de l'histoire, nous demandent de nous réconcilier avec Bachar el-Assad. Peut-on être plus explicite?
Alors, François Burga parle du ressentiment. David Thompson, je me tourne vers vous. Il y a un mot dans l'ouvrage qui pèse fortement, c'est le mot « humiliation ».
Effectivement, le mot humiliation et donc son corollaire, celui de revanche, il est présent dans la quasi-totalité des entretiens. Celui d'humiliation, celui de revanche, c'est moi qui le colle dessus, mais d'autres l'ont dit aussi. L'État islamique a su parfaitement instrumentaliser partout où il était présent cette envie de revanche. Revanche de la position sociale qu'on offrait à ces jeunes en France, ou qui pensaient leur être réservés. Dans mon premier livre, je citais l'exemple d'un jeune qui était parti en 2013 et qui disait « Moi, en tant que fils d'immigrés marocains, j'avais l'impression qu'en France, j'avais atteint une sorte de plafond de verre. J'étais au maximum de mes capacités. » Pourtant, c'était quelqu'un qui était en CDI, qui gagnait bien sa vie. Mais il avait l'impression d'avoir atteint le maximum de ce qu'il pouvait espérer dans sa situation à
lui et il m'a dit cette phrase, il m'a dit « L'islam nous a rendu notre dignité parce que la France nous a humiliés ». Donc c'est aussi pas forcément une humiliation forcément fondée, si je veux dire. En tout cas, elle est vécue comme telle, c'est un sentiment. De même que, je pense, l'État islamique, les chercheurs qui travaillent sur l'Irak l'ont bien montré, a su travailler sur le sentiment d'humiliation sunnite après une domination chiite. De même qu'à Sirte, en Libye, je pense que le sentiment d'humiliation des pro-Kadhafi à Sirte vis-à-vis de la ville de Misrata, qui les avait humiliés pendant la révolution de 2011, au dernier moment de la guerre en Libye, a su être instrumentalisé et substitué à la volonté de revanche sunnite chiite. Donc à chaque fois, effectivement, il y a cette humiliation et il y a cette envie de revanche à laquelle répond le projet de l'État islamique.
Alors, pour conclure, le phénomène est appelé à durer, on l'a bien compris, tant que la prise de conscience ne se fera pas. Finalement, quel défi et quelle priorité pour nous, Mathieu Rey ?
Je pense que l'énorme défi, c'est qu'il va falloir à un moment donné arrêter de vouloir faire des choses immédiatement, mais bien se poser et penser un petit peu plus longuement au message qui nous a été envoyé depuis 2011. En 2011, un ensemble de peuples est sorti dans la rue, non pas pour réclamer une nouvelle constitution, mais simplement une vie normale. Il y a eu après trois trajectoires possibles. L'une, c'était la violence. Elle s'inscrit que ce soit dans la figure de l'État islamique ou dans celui de Bachar el-Assad. Ce chemin, pour l'instant, ne cesse d'augmenter dans ses niveaux et dans ses formes. Moi, ce qui m'atterre et qui m'inquiète de plus en plus, c'est de voir la communication entre les différents pouvoirs pour utiliser des formes de violence et augmenter à des niveaux qu'on n'a jamais imaginés dans la région et plus globalement dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. On fait disparaître aujourd'hui le tissu urbain du Moyen-Orient. On fait disparaître les villes. Ça, je trouve que c'est relativement inquiétant parce qu'une fois que vous n'avez plus de ville, vous n'avez plus de support pour créer une nouvelle génération. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'était des sociétés civiles qui se sont organisées, qui ont inventé, qui ont innové et qui continuent dans la clandestinité à promouvoir un certain nombre de messages, mais qui ne sont pas audibles à nous parce qu'ils ne proposent pas ce que l'on veut, à savoir une constitution ou une réponse au terrorisme. Non, ils veulent simplement ramasser leurs ordures, avoir de l'électricité, organiser leur région, etc. Si un jour nous prenons contact avec eux, alors peut-être que nous pourrons engager une autre voie. Et enfin, la troisième, c'est celle de la mer. Quand vous n'avez ni possibilité dans la violence, ni possibilité dans l'organisation, vous partez. Et aujourd'hui, nous voyons des communautés s'organiser en Allemagne, des communautés s'organiser en Suède, et ces deux pays bénéficient de l'arrivée d'une main-d'œuvre largement qualifiée pour bénéficier de croissance. Ces trois messages, je pense, nous ne les avons toujours pas compris. Et tant que nous ne calibrerons pas nos priorités en fonction de ces messages, nous irons probablement droit dans le mur, comme au Bataclan.
Très rapidement, François Burga, David Thompson, en quelques secondes.
Je pense qu'il faut faire en sorte que plus jamais des segments du tissu national de nos enfants aillent chercher ailleurs ce qu'on n'est pas foutu de leur donner chez nous. L'équation Daesh se résume à « ils partent chercher ailleurs ce que nous leur refusons ». Et les mots, ils sont très simples, c'est respectabilité, qu'on leur donne les moyens d'exister, de se regarder dans une image crédible. Peut-être un tout petit mot sur le contresens que nous avons fait dans la gestion de la crise syrienne. Nous avons laissé un permis de tuer à celui qui était la matrice de la violence dans cette région du monde, au bénéfice d'une gestion extrêmement égoïste de nos intérêts, tous contre Daesh et seulement contre Daesh. Et ça, ça a été une contre-performance majeure. Donc, de façon un petit peu pompeuse, je dis l'arme anti-terrorisme, elle existe, simplement, elle a un nom horrible, personne ne veut le prononcer, c'est le mot partage. Partageons un tout petit peu mieux les ressources chez nous, veillons à ce qu'il en soit ainsi chez les autres, et on ne se réunira plus pour parler de ces vilains sujets qui nous ont réunis aujourd'hui chez vous.
David Thompson.
Oui, les raisons qui font que l'État islamique a séduit certaines couches de la population en France et dans d'autres pays. Je rappelle que le pays le plus touché au monde est la Tunisie, un modèle de société totalement différent d'une autre. Ces raisons sont toujours là. Mais aujourd'hui, les candidats ne peuvent quasiment plus partir sur le territoire de l'État islamique. Mais en revanche, il y a un contingent de sympathisants maintenant qui est là, dont certains se sont vus insérer le logiciel terroriste par la propagande de l'État islamique et que les autorités sont obligées de gérer, d'apprendre à gérer maintenant.
Merci, c'est la fin de Géopolitique pour cette édition réalisée en partenariat avec l'IREMO. Merci à François Burga, politologue et directeur de recherche au CNRS, Mathieu Rey, chargé de recherche au CNRS et chercheur associé au Collège de France, et David Thompson, journaliste à RFI. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous évoquerons les contradictions de la lutte contre le terrorisme. À demain.